Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
This is the road to Potter's Bluff. Maybe you've been there. Clean, picturesque, full of old-fashioned friendliness. The kind of town everyone likes to visit. This is the road to Potter's Bluff. There is no road out.
Welcome to Potter's Bluff.
From the creators of Alien, terror brought down to earth, dead and buried.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au réalisateur Gary Sherman. Talentueux metteur en scène oublié de quelques pépites, dont Le Métro de la Mort, sorti chez Rimini Éditions, Vice Squad, sorti dans la collection Make My Day chez Studio Canal, et Dead and Buried, qui vient de sortir en import chez Blue Underground, dans un Blu-ray toute région. Voilà, donc on peut acheter, même si on réside en Europe, on pourra voir le film avec des sous-titres français. C'est important. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Jean-Baptiste Toret et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer Gary Sherman, Damien Demey dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Hi John.
Bonjour à tous, bonjour Damien, bonjour Gégé, bonjour Thomas.
Et oui, vous l'avez entendu, Thomas est là à distance, l'ami Thomas Roland, le rédacteur en chef de la revue Prime Cut, qu'on surnomme le loup-garou Picard et qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, est avec nous en ligne. Salut Thomas.
Salut Damien, salut John, salut Gégé et bien évidemment salut à toutes.
Gary Sherman, c'est un peu un secret bien gardé de nombre de cinéphiles, hein. Même si je sais que dans ce studio... Il va y avoir débat aujourd'hui au sujet de Gary Sherman. Donc Gary Sherman, qui est Gary Sherman? Parce que pour le commun des mortels, Gary Sherman, c'est quelqu'un pas forcément de très connu. Alors on va faire une petite bio rapide de Gary Sherman et puis après on va revenir sur sa filmographie et en particulier sur ses trois films mythiques, hein, sa trilogie mythique qui a marqué toute une génération de cinéphiles, dont la mienne, puisque nous avons découvert ces films via des VHS à l'époque, et qui étaient des VHS qu'on s'échangeait, qui étaient des films assez exceptionnels. Sherman, même s'il démarre par un premier film britannique, hein, par un premier film anglais, en fait, c'est un Américain, hein, commence sa carrière. Enfin, il est né à Chicago, dans l'Illinois, on ne peut pas faire plus américain. Hein, voilà. Donc, et il commence sa carrière par diriger des courts-métrages, beaucoup de pubs, de documentaires. Voilà. Et puis quand il sort de l'école, hein, il fait une école de design, il se rend en Angleterre, où il continue de travailler dans la pub. Et c'est à ce moment-là qu'il va coécrire et diriger son premier film, le fameux Death Line avec Donald Pleasance, Le Métro de la Mort. Alors Death Line, Le Métro de la Mort, donc, qui est ressorti il y a peu chez Rémy dans une superbe copie. Et pour le British Film Institute, lors de sa sortie, le plus significatif début de l'année pour un réalisateur. En fait, il considère que c'est le meilleur premier film de cette année-là. Bon, c'est vrai que c'est un film très particulier, hein, et particulièrement marquant, qui détonne. On y reviendra. Et puis ensuite, eh bien, Sherman va beaucoup travailler à la télévision. Il va rentrer aux USA, beaucoup travailler à la télévision, faire beaucoup de choses pour la télé. Il va aller à Los Angeles, parce que tout se passe à Los Angeles. Évidemment, il va faire beaucoup de pilotes, de séries télé, tout ça, des choses comme ça. Et puis à un moment, le producteur de Ronald Chaussette, Dafko Ambesi, va le contacter pour qu'il dirige un film. Le fameux Dead and Buried, Réincarnation. Et on reviendra plus en détail sur Réincarnation tout à l'heure, hein, parce que tout ne va pas forcément bien se passer quand il va faire Réincarnation, c'est plus compliqué que ça. Le film est aussi une série de compromis, malgré les grandes qualités du film. Et juste après, il va enchaîner avec V-Squad, hein, Descente aux Enfers, hein, en VHS, qui a été sorti donc, dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Auret chez Studio Canal. V-Squad qui est photographié quand même par John Alcott, le directeur de la photo pardon, de Stanley Kubrick. D'ailleurs, il y a une scène à la bougie dans V-Squad, hein, un peu marque de fabrique de John Alcott. Ensuite, il va coécrire et diriger un thriller d'action qui est inspiré de la série Au nom de la loi en France, hein, Les aventures de Joss Randall, qui a été interprété par Steve McQueen, qui va transposer de manière contemporaine avec Rutger Hauer dans le rôle principal. Et ça va s'appeler Wanted Dead or Alive. C'est tout à fait correct, mais c'est vrai qu'on est en dessous des trois films précédents. Et puis après, il va arriver le fameux Poltergeist 3, qui va vraiment en fait un peu fâcher définitivement Gary Sherman avec le cinéma. Une fois que le film est fini, on le trouve trop radical, la censure veut le classer PG. Alors Sherman avec le studio décide de retourner des séquences du final, sauf qu'entre deux, malheureusement pour elle, la petite actrice Heather O'Rourke décède, l'enfant star hein, qui jouait dans le film. Et Sherman va finir par tourner ses scènes avec une doubleur. Il faut savoir que Sherman ne voulait absolument pas, à la base, retourner ses scènes. Hein. Il a accepté suite à beaucoup de discussions avec le producteur et tout ça. Et puis, le film est un énorme échec, même si Sherman trouve qu'il y a les meilleures scènes qu'il ait filmées de sa carrière. Dans le film, je trouve qu'il y a des scènes, des petites parties du film qui sont extraordinaires où il a utilisé des caméras mécaniques, tout ça. Enfin, c'est parmi ce qu'il a préféré. Mais néanmoins, Sherman va décider de quitter hein, quasiment le cinéma. On ne va quasiment pas le revoir du tout. Il va surtout travailler pour la télévision. Beaucoup vont essayer de le persuader de revenir faire un film fantastique ou d'épouvante. Hein, et en particulier en 2000, quand il va recevoir un prix, c'est-à-dire pour Deathline, Le Métro de la Mort, qui a été cité dans les 10 films les plus importants horrifiques britanniques du XXe siècle, par l'ensemble de la critique, hein, qui s'est réunie, il y avait un jury, tout ça. Donc du coup, à ce moment-là, l'un de ses plus gros fans, qui s'appelle quand même Guillermo del Toro, excusez du peu, essaye de le persuader de revenir à la réalisation, ce qu'il ne fera pas. Il fera des petites choses, hein, il fera un truc qui s'appelle Le Film by Carol McCain, et il travaillera sur quelque chose qui s'appelle Lisa aussi pour la MGM, mais c'est pas des œuvres très... Voilà, c'est pas... On ne retrouve pas le Gary Sherman qui était autant investi dans ses films. Voilà. En fait, Gary Sherman, depuis 2007, il est enseignant à Columbia, et il n'a pas trop envie d'en changer, ça lui plaît très bien, et le milieu du cinéma, et il en est revenu. Voilà. Alors ça, c'est rapidement le résumé de la vie de Gary Sherman. Bon, maintenant, on va quand même entrer dans le détail, parce que, déjà, c'est quand même... Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est aussi le scénariste de Phobia, de John Huston, qui n'est pas le meilleur John Huston quand même, hein, on va se le dire tranquillement. Mais on y reviendra dessus, puisqu'en fait, il s'est passé des trucs encore sur ce film-là. Enfin, la vie n'a pas été de tout repos pour Gary Sherman, hein, qui a quitté le bateau Phobia aussi. Voilà. Alors, mais on va commencer par le métro de la mort. Donc, le métro de la mort, c'est un peu une déflagration quand ça sort en 81. C'est, le pitch est assez simple. Hein, deux étudiants découvrent un homme gisant dans le métro à Londres. Et lorsqu'il ramène un policier pour récupérer le corps, il n'y a plus de corps. Voilà. Donc de là va commencer une intrigue, puisque une intrigue policière, hein, puisqu'il y a un inspecteur Calhoun, qui est interprété par Donald Pleasance, qui est sensationnel dans le rôle, qui en fait des tonnes. Enfin voilà, il est assez chouette dans le rôle, très drôle, très subtil, très Donald Pleasance, très anglais. Et il va se mettre à enquêter, et on va découvrir qu'en fait, dans ce métro, sous ce métro même, enfin en tout cas dans des portions condamnées du métro, vit une sorte de monstre est un monstre qui en fait est fait partie des certains ouvriers, des travailleurs qui ont travaillé à la construction du métro londonien, qui ont en fait été atteints d'une maladie et qui ont été enfermés, cloisonnés comme ça dans le métro, et lui on l'a oublié. Et il était censé être mort, sauf que il y en a quelques-uns qui ont survécu, et que par les joies et bonheurs de la consanguinité et du cannibalisme, ce monstre aujourd'hui existe, est dans le métro et se nourrit de chair humaine. D'où le pitch, comme on dit maintenant, l'intrigue de ce film. Ce film qui, toi, je pense, Thomas, t'as profondément marqué, toi qui es quelque part le plus londonien de toute l'équipe, puisque c'est sans doute toi dans l'équipe qui s'est le plus rendu en Angleterre, et qui connaît bien le métro de Londres. Donc, je pense que ce film ne t'a pas laissé indifférent.
C'est vrai que le métro de la mort, effectivement, il arrive bien à capter cette ambiance. Cette ambiance londonienne, cette ambiance du métro londonien. Et c'est un film. En fait, c'est vendu comme un film d'horreur, mais je trouve que ce n'est pas tant que ça un film d'horreur. C'est plus un film social, je trouve. Un film social sur. C'est un film de classe, en fait, quelque part. Et c'est un film qui parle des marginaux, de ceux dont on ne veut plus, de ceux dont on ne veut plus voir, qu'on met à l'écart. Et je trouve que par rapport à ça, le film il est très fort, et je ne trouve pas que ce soit tant que ça un film d'horreur, en fait, finalement.
Écoutez Culture Prohibée. We'll be right back. je pense que la séquence horrifique, la séquence qui a marqué, c'est l'ambiance putride qui se dégage d'une séquence, en fait. Un incroyable travelling durant lequel on découvre l'antre du cannibale, qui, oui, comme tu le dis, ce cannibale, c'est une victime de la lutte des classes. À la base, il descend d'une famille d'ouvriers qui était venue construire le métro. Et puis, c'est le dernier survivant, en fait, d'un groupe d'ouvriers de l'époque victorienne. Hein, donc, qui a été piégé là, dans ce coin oublié du métro. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un aspect politique dans le film qui est assez étonnant. Assez étonnant, qui est assez évident en plus, ne serait-ce aussi que pour la confrontation entre l'ordre établi, c'est-à-dire la police et les jeunes. Il y a pas mal de dialogues assez bien pensés, assez drôles. Et je pense que moi, on classe ce film, qui pour moi est un film assez unique. Ce n'est pas un film sans maladresse, mais c'est un film qui vous habite après que vous l'ayez vu. Quoi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas oublier, ce n'est pas un film fantastique lambda. Ce n'est pas un film classique, c'est un film qui vraiment marque les esprits. Et moi, je pense qu'il est vraiment classé dans l'horrifique, vraiment à cause de ce travelling-là qui est quand même une scène bien dégueu, hein, on va se dire les choses, hein, où on voit vraiment l'antre du monstre et puis c'est assez ignoble, quoi. C'est assez ignoble, tout est en putréfaction, des matières visqueuses, enfin, y a des cadavres, des squelettes. Et puis en même temps, ce qui arrive à capter Sherman, ce qui est assez intéressant, c'est que ce monstre, il semble habiter d'une certaine détresse, presque d'une mélancolie. C'est assez étrange. C'est pas un monstre cruel, sanguinaire, violent, qui va se jeter sur vous. Enfin, c'est pas le grand méchant loup, quoi. Ce monstre, il fait un peu de peine quelque part, même si on aimerait tous, on voudrait tous là autour de la table dans ce studio ne pas l'avoir comme copain, ça c'est évident. Mais en même temps, il est une victime, ce monstre. C'est ça aussi qui fait, je pense, la force du film.
C'est vrai que le film a un aspect extrêmement social, comme vous l'avez évoqué, notamment dans la description du monstre, qui est intéressant parce que la première fois qu'on nous présente, certes, il agresse des personnes. Mais ensuite, on le trouve finalement avec une autre personne, une créature du coup plutôt femelle. On a affaire à un couple qui est en train de dépérir peu à peu et le monstre est un peu paniqué parce qu'il ne sait pas quoi faire pour la sauver, ce qui donne un aspect très triste à l'histoire du monstre qui est au final, c'est le moment où il prend son côté très humain. Monstre qui essaye de communiquer finalement avec d'autres humains qui ne le comprend pas, vu que le seul truc que lui... les seuls mots qu'il comprend, c'est attention aux portes, référence aux portes du métro qui se ferment. Et du coup, on se retrouve dans une créature incomprise qui essaye de survivre. Et la définition que tu en as fait, finalement, avec ce groupe qui se retrouve enfermé dans le métro de Londres, ces ouvriers laissés qui vont donner lieu à une descendance, une descendance dégénérée, c'est ultra intéressant parce que finalement, on retombe dans le concept de la exploitation. Sauf que généralement, c'est quelque chose qu'on fait dans des espaces verts, en forêt, dans des déserts et tout. Et là, on a l'idée de la exploitation, mais à l'intérieur même de l'ombre. Ce qui est finalement un concept vraiment très intéressant. Il y a aussi, comme tu l'as dit, une esthétique qui est très belle, malgré un rythme que je trouve très lent et souvent inégal. Tu as cité le fait qu'il avait été récompensé pour le film que c'était. C'est très intéressant parce que récemment, j'ai vu le dernier film de la série des VHS, VHS 94, qui a un segment qui se passe dans les sous-sols. Et en regardant le film de Gary Sherman, j'ai retrouvé beaucoup de liens entre les deux. Et notamment tout ce contexte, le fait de poser un contexte social finalement dans cette pauvreté, cette maladie qui stigmatise les gens et les éloigne.
Mais oui, alors moi déjà une mention spéciale pour Donald Pleasance, alors là, et qui est truculent, qui est cabotin à mort, et vraiment c'était un plaisir de voir le jeu de cet acteur sur tout ce film-là. Par contre, j'ai pas été un grand fan du film, mais j'étais très sensible à la nuance qu'il y a, c'est-à-dire que quand même la première scène, on voit un notable, voire même du gouvernement, je crois bien, si je me rappelle bien, qui descend dans le métro, et on on voit quand même ce monstre qui est le fruit d'un certain capitalisme qui abandonne même ces gens-là parce qu'il y a eu une démolition et puis on se dit, bon, bah, écoutez, c'est pas grave, on va les laisser là. Et en fait, ce notable du gouvernement va être mangé par ceux qui ont été abandonnés. Et ce discours social est tellement présent dans ce film-là, c'est vrai que ça en fait un film soi-disant d'horreur, parce que là, je rejoins Thomas, c'est pas spécialement de l'horreur, ça en fait un film soi-disant d'horreur très hybride, où le discours social a énormément d'importance. Les maquillages et autres effets sont vachement bien faits, par contre, sur les deux monstres. On s'attache vraiment à des corps décharnés, peut-être pour pousser un peu plus loin la réflexion sur le fait que tout ça a été abandonné et laissé à soi. Donc voilà, j'ai pas été spécialement sensible à ça, mais par contre, forcé de reconnaître, pour ma part, qu'il est fascinant sur ce côté de mélange d'horreur et d'une mentalité sociale assez forte. Voilà.
C'est un film qui a évidemment inspiré Clive Barker et puis Christopher Smith, évidemment.
Hein. Ouais, bah j'allais en parler pour Creep, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même... Il est régulièrement cité parmi les films les plus importants du cinéma fantastique d'horreur britannique de l'époque. Certainement parce que je pense aussi qu'on était à une époque charnière où c'était aussi difficile pour la Hammer avec ses Dracula AD72, Dracula 73 en français, Dracula vit toujours à Londres, qui sont quand même beaucoup moins bien, où on sentait que la Hammer ne savait pas trop quoi faire du changement d'époque. Est-ce qu'on restait dans le gothique? Est-ce qu'on mettait plus d'érotisme? Ils étaient un peu coincés. Lui, il arrive avec son... C'est un Américain, en fait, qui vient filmer... à Londres, et du coup, il a un regard un peu différent, il a un point de vue un peu différent, c'est assez intéressant, je trouve. Je vois du Toby Hooper, moi aussi, hein, le Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper me paraît assez évident, l'influence me paraît plus évidente, là, par contre, puisque c'est antérieur, quand même, hein, et largement, donc il a largement eu le temps de le voir. Rappelle aussi que le film de Toby Hooper, c'est pas du tout un film rejeté par le public, la critique et tout ça. Quand il sort, c'est plutôt un film qui va dépasser son metteur en scène, qui derrière va pas réussir à saisir l'opportunité de s'inscrire un peu dans le nouvel Hollywood de l'époque et tout ça, puisque quand il sort au début des années 70, le film de Toby Hooper, il rencontre tout de suite une forte adhésion. Enfin, voilà, un peu comme La Nuit des Morts Vivants de Romero. Enfin, c'est des films qui ont très bien fonctionné tout de suite, aussi bien auprès du public qu'auprès de la critique. Le film de Hooper, il est quand même acheté par le MoMA, je crois. Hein, il me semble bien. Donc, c'est pas rien, quoi. Dès sa sortie. Donc, donc, je pense que ça, il a dû le voir parce que c'est. Il aime le fantastique, Sherman, c'est évident. C'est évident. On va continuer sur sa filmographie, mais c'est évident parce que même il y a toujours un petit côté fantastique, un peu dans tous ses films, je trouve.
Et aussi un petit côté malsain, qu'on va retrouver vraiment dans Dead and Buried.
Oui, alors on va parler de Dead and Buried, puisque John, tu me fais la transition. Dead and Buried, donc 81, donc il enchaîne. Hein.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial Gary Sherman.
Alors Dead and Buried, qui est un film fait dans la douleur quand même, faut le savoir, puisque c'est un film qui est dont la maison de production est rachetée pendant le tournage du film, donc ça crée un beau bordel. Et au moment de la post-production du film, il y a encore un rachat de la maison de production, donc c'est très compliqué de travailler dans ces conditions-là, malgré toute la somme de talent qui est réunie. Les nouveaux producteurs, ils sont plus trop d'accord avec le ton du film original, qui était un film un peu plus humoristique, en fait, parce que Il y avait déjà un côté humoristique dans le métro de la mort avec Plaisance, donc il y avait un côté un peu plus humoristique. Et en fait, les producteurs obligent Sherman à insérer des scènes gore qui tournent à contre-cœur. Et bon, tout ça, on l'apprend parce que voilà, Sherman s'est exprimé là-dessus. Il y a beaucoup de bonus. Il y a des bonus super intéressants dans l'édition. Dans l'édition de Dead Dead Berlin chez Blue Underground, évidemment, c'est pas sous-titré les bonus, mais par contre dans les éditions de Rimini du Métro de la Mort et dans les éditions du Vice Squad de Studio Canal, il y a beaucoup d'entretiens et d'éléments donc dans lequel soit ses collaborateurs soit Sherman revient sur la période. On découvre que oui, ces films sont ça ne s'est pas toujours bien passé. Voilà. Et Dead and Buried, donc, c'est un film fait dans la douleur, auquel on attache souvent le nom de Dan O'Bannon. Mais en fait, Dan O'Bannon n'a fait que relire le script. Il le redit lui-même, il le redira plusieurs fois. Il n'a pas fait grand-chose sur le film. Et derrière, il y a aussi Ronald Chossett. Et Ronald Chossett, c'est l'autre créateur d'Alien avec Dan O'Bannon. Et en fait, au départ, ce n'est pas du tout eux deux qui créent le film. C'est deux scénaristes qui s'appellent Jeff Millar et Alex Stern. Et Chossett, quand il voit le scénario, il dit « on tient un truc ». On tient un truc dans le genre balisé du film de mort-vivant. On tient un truc, je ne sais pas, il y a un truc en plus dans ce film qui peut nous amener dans d'autres territoires, dans ce scénario, pardon. Et du coup, il réécrit le scénario et c'est là qu'il demande à Dan O'Bannon de le relire. Et on va faire le lien avec Phobia tout à l'heure. Chossett est amené à participer à l'écriture du scénario de Phobia, donc avec Gary Sherman. Et puis, Chossett, plutôt que de s'aventurer en tant que producteur sur le film de John Huston, que visiblement, il sent pas trop, à juste titre d'ailleurs. Notre ami Thomas, qui est très fan de John Huston, nous en parlera peut-être tout à l'heure de Phobia, mais bon, il le sent pas trop. Voilà. Du coup, il décide de s'investir à fond dans Dead and Buried, dans Réincarnation, titre français. Et puis, il prend avec lui Gary Sherman, bien lui en prend. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, ce film fait dans la douleur, qui pourtant n'en peut... Ça ne se voit pas du tout quand on regarde le film. Raconte l'histoire de la petite ville de Potter Bluff. C'est une petite ville. Hein. Quand il y a Bluff dans le nom, on devrait se méfier. Ça veut dire qu'il y a des faux-semblants. Une petite bourgade bien peinarde, en bord de mer ou de l'océan. Il ne s'y passe pas grand-chose. On a un shérif qui a une vie plutôt plan-plan. Sauf que là... il se met à tomber sur des cadavres qui sont quand même victimes d'assassinats assez violents. C'est pas des accidents. Ça pourrait sembler être des accidents, mais lui, il sent qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un truc qui cloche. Et donc, il va mener son enquête et il va découvrir le secret de Potter Bluff. Et il va découvrir qu'en fait, bien qu'appartenant à la communauté, il ne connaît pas les membres de cette communauté réellement. Voilà. Je pense que ça, c'est un film qui fait, l'unanimité. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer, mais on va demander à notre plus jeune chroniqueur, à Damien, lui qui a découvert le film. En plus, tu l'as découvert pour préparer cette émission. C'est intéressant parce que nous, ça fait tous 15 fois qu'on le voit, le film. Donc voilà. Mais toi qui l'as découvert et qui a donc à manger, à avaler un nombre considérable de films de zombies, parce que quand le film arrive en 81, Réincarnation, il y a eu les films de Romero, il y a eu le zombie peu de temps avant, le Dawn of the Dead. En fin de compte, pour nous, c'est une méga claque. Bon, toi qui as vu des dizaines et des dizaines de films de zombies, et depuis, le genre a été renouvelé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu penses de ce Dead and Buried ?
J'étais moins frappé que vous, en effet, tous les films des zombies d'avant les années 2000 et d'après les années 2000. J'ai été vraiment impressionné par le film. Je ne sais pas si j'ai pris une claque comme vous, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs plans où je me suis dit « Waouh, c'est vraiment incroyable ». Par exemple, il y a un time-lapse laps de reconstitution de visage qui est fait à un moment qui est parfait, où il y a la scène de poursuite de la famille, où il y a un plan que j'adore, où ils ouvrent une pièce, ils voient qu'il n'y a personne, ils sont en train de refermer la place, et avec l'angle de la caméra, on voit qu'il y a une deuxième porte derrière qui s'ouvre. Bah, de toute façon, toute la scène de la poursuite de la famille est incroyable au niveau des plans. Je trouve que contrairement au Métro de la Mort dont on a parlé juste avant, il y a un très bon rythme. On est dans le film durant tout du long. Et il y a un truc, je ne sais pas si c'est si ça m'a fait encore plus adorer le film, mais il y a un moment où justement ils expliquent l'origine d'un des personnages qui est le docteur, et ils expliquent qu'ils viennent de Providence, qui est une des villes, qui est du coup la ville de Lovecraft et tout. Et il y a un autre détail dans le film qui fait beaucoup penser à l'œuvre de Lovecraft, dont je ne peux pas le dire sinon ça spoil, mais qui va donner un film quelques années plus tard qui... En fait, elle a la même thématique. Et à ce moment-là, j'étais le film m'a attrapé et il ne m'a plus lâché.
Et oui, moi, c'est pour moi, sans aucun doute, le meilleur film de Gary Sherman. La photo est magnifique parce qu'elle est ouatée, comme j'aime bien dans certains films. Il y a encore dans ce film-là, on se rappellera tous de certains plans de films, la fin de Massacre à la tronçonneuse ou des plans iconiques comme ça dans le cinéma. Eh bien, ce film-là aussi, son plan iconique... qui est cette infirmière qui va venir et va mettre à mort la première victime. Et on ne peut que se rappeler de ça, voire même ça faisait partie des jaquettes interchangeables quand on veut acheter le Blue Underground, la preuve en est. Et il y a un côté malsain à la révélation finale qui est incroyable, avec un shérif qui va tomber des nues par rapport à la femme qui pensait aimer ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un film qui réunit tout, l'ambiance, le côté où sous une couche de vernis, dans cette petite station balnéaire, tout va bien, mais en fait tout est caché. Et Sherman arrive vraiment à faire ressentir ce côté où on sent que le masque commence à se briser chez certaines personnes, et c'est peu dire. Il y a un côté cool au docteur au début qui est vachement bien amené, mais qui amènera plus tard une certaine folie. Ça, c'est, cher auditeur, à vous de le découvrir. Et il faut aussi souligner le travail exceptionnel de Blue Underground sur le Blu-ray et la copie 4K, qui rend honneur vraiment à la photographie de ce film. N'hésitez vraiment pas à vous le procurer, puisque les sous-titres français sont bien là. Donc il faut voir ce film atypique, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à quelque chose. Alors c'est bizarre justement d'en parler par rapport à Death Line, que moi j'avais pas vu, que j'ai vu pour l'émission, où je me dis là oui, il a vraiment atteint une... Pour moi, un sacré bon film à la hauteur de certains films de zombies, à la hauteur de certaines œuvres cultes de l'horreur. Pour moi, je place Dead and Buried là-dedans.
Écoutez Culture Prohibée.
Ce qui est intéressant, c'est que l'Angleterre, là, alors évidemment, il y a Providence, hein, il y a donc Lovecraft, peut-être un araigné aussi, hein, je ne sais pas. Possible, hein, c'est pas impossible. Hein. Et puis, tu l'as dit, il y a cette photographie là, un peu éthérée qui donne l'impression qu'on est tout le temps dans un cauchemar, que le film est onirique du début à la fin, qu'on n'est pas dans le réel. C'est assez étonnant. Où il y a aussi ce mélange du trivial et du très subtil. Je pense à ce personnage de Robert Englund, je pense au début aussi, à cette scène de drague sur la plage entre cet artiste et puis cette femme qui tout à coup va se dessaper comme ça, et puis ça va pas bien finir pour lui évidemment, puisque tout cela, c'est le premier meurtre du film, hein, voilà. Et puis, pour moi, il prend un peu d'Angleterre avec lui, ça je pense que notre ami Thomas va nous en parler aussi, mais on a fait il n'y a pas longtemps une émission sur le paganisme. C'est quand même difficile de ne pas voir aussi les liens avec The Wicker Man de Robin Hardy. C'est-à-dire, on est là, entouré par l'eau, par l'océan. Il y a une petite communauté. On retrouve la scène dans l'école où Melody Anderson, c'est quand même difficile de ne pas tomber amoureux de Melody Anderson pour James Farantino qui fait le flic de ce film, parce que elle représente un peu l'américaine parfaite. Elle est mignonne, elle est belle, elle est parfaite, parfaitement manucurée, tout ça. Ça cadre pas du tout avec le cours qu'elle donne dans sa classe, qui surprend le flic et qui rappelle une scène évidemment de The Wicker Man. Il y a beaucoup pour moi d'analogies entre The Wicker Man et ce film-là. Et je trouve que c'est des films qui se, il n'y a pas l'aspect musical, mais c'est des films qui se ressemblent dans le sens où aussi on a un flic qui essaye de, alors ils sont différents évidemment dans The Wicker Man, c'est un puceau, tout ça. Enfin bon, c'est très différent. C'est là, on est sur un mec lambda, un flic qui fait bien son taf et tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais il vit la même chose. C'est-à-dire, il découvre que la communauté dans laquelle il habite, enfin, il la découvre en fait. C'est pas du tout la communauté et qu'elle a des rites et qu'elle a des croyances et qu'elle a une manière de fonctionner qui est complètement différente que ce qu'il croyait, que ce qu'il envisageait. Ce qu'il envisageait au départ. Et Damien, tu l'as bien dit, ce plan de reconstruction faciale, on va dire ça comme ça, c'est un plan particulièrement marquant du film, c'est un plan iconique. Hein. Et il y en a, c'en est un parmi d'autres, comme John l'a rappelé, parce qu'effectivement, le moment où il découvre la vérité sur Melody Anderson est aussi un moment particulièrement marquant pour tous les cinéphiles.
Et très malsain, parce qu'il y a un côté où le flic va devoir faire face à une vérité qui va le dépasser. Et là, pour le coup, voire même la production de design de ce moment-là est incroyable, avec les écrans qui repassent la mémoire de chacun ou quoi que ce soit. Ah non, c'est vraiment... le flic, et c'est là où c'est fort, va être étonné du même moment que nous aussi, on va être étonné de découvrir ça quand c'est la première fois qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il y a cette similitude de dire... Oh,
bah, je crois que vous avez déjà beaucoup dit sur le film. Effectivement, on y retrouve une ambiance brumeuse, très gothique à l'anglaise, hein, qui fait référence, comme l'a dit Damien, je pense plutôt à la Nouvelle-Angleterre de Lovecraft. Et c'est aussi, je pense qu'on peut aussi y voir un discours plutôt social dans le film, dans le sens où ce sont des petites villes qui sont désertées par leurs habitants. Et... qui vont plutôt vers, enfin, un film sur l'exode rural où les gens vont plutôt vers les grandes villes et qui désertent donc ces petites villes, ces petites stations balnéaires où il se passe de bien étranges choses, où les gens de passage subissent des sévices particulièrement violents. Et pourtant, et ça fonctionne à mort parce que pourtant le film il est. Il y a toutes les grosses ficelles du film d'horreur. La musique quand il faut avoir peur, la musique quand il y a du suspense, etc. Mais pourtant, ça fonctionne à mort, quoi. Je trouve qu'effectivement, pour moi, c'est son meilleur film avec le métro de la mort. Parce que ses autres films ne me convainquent pas plus que ça, hein, je dois dire. Mais je pense que c'est son meilleur film avec son plus maîtrisé. Et même si il a dû retourner des scènes gore comme on lui a imposé, je trouve que ça ne se sent pas. Je trouve qu'il y a une unité au niveau du découpage, de la mise en scène. Je ne trouve pas qu'on sent qu'il y ait quelque chose qui lui a échappé à un moment ou autre du film.
Je pense aussi que la présence de Robert Englund, quand on a vu le métro de la mort et les liens que son cinéma peut entretenir avec celui de Toby Hooper, enfin en tout cas avec Massacre à la tronçonneuse, la présence de Robert Englund est peut-être pas non plus fortuite parce que... on peut y retrouver aussi quelque chose du Crocodile de la mort dans ce film-là. Il y a quelque chose. Alors effectivement, moi, j'ai été très surpris. Enfin, je le savais depuis un moment qu'il avait eu des difficultés de production, ce film. Mais ça ne transparaît pas du tout à la vision du film. Pour moi, il a fait... Gary Sherman a fait deux grands films. Celui-là et le suivant, dont on va parler. Moi, que je trouve extraordinaire. Après, vu ce que vous me dites, je pense que vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je défendrai le beefsteak, hein, je sais faire. Et je trouve vraiment qu'effectivement, Dead and Buried, dans l'incarnation, est une sorte de... Alors pour le coup, c'est un vrai film d'horreur, Voilà. Et deux films d'horreur parfaits. Enfin, voilà, qui en même temps a tous les archétypes du genre, avec tous les poncifs, Thomas l'a bien dit. Il y a même les scènes érotiques gratuites. Il y a tout. Il y a les scènes gore gratuites, les scènes érotiques gratuites, la grosse musique quand il faut avoir peur et tout et tout et tout. Les bonnes brumes quand on est les bonnes brumes de, pour qu'on se croirait presque dans la campagne anglaise par moment. Hein, voilà. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et pourtant, ça marche. Et ça marche toujours. Enfin, je veux dire, quand on le revoit aujourd'hui, pour moi, le film n'a pas pris une ride. Pour moi, le film a gagné encore en qualité. D'autant plus qu'il y a eu plein de réinterprétations du film de zombies. Et qu'il y en a très peu qui sont capables de vous filer. En fait, je pense que ce qui fait la force des films de Sherman, enfin, en tout cas sur cette trilogie, c'est quand même des films qui vous foutent le cafard, en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est des films qui vous foutent les boules, quoi. C'est-à-dire le métro de la mort, vous avez de la peine pour ce monstre qui n'est pas vraiment un monstre, en fait. Vous avez de la peine pour ces pauvres ouvriers qu'on a emmurés comme ça, qu'on a oubliés, alors qu'ils ont construit ce métro. Là, vous avez de la peine pour ce flic, vous avez le bourdon, vous avez le cafard, vous vous dites que c'est dégueulasse ce qui lui arrive, en fait. C'est ça, c'est le sentiment qui étreint le spectateur. Et c'est ce cauchemar qu'il vit, et vous le vivez, quoi. Je ne sais pas comment se débrouille Gary Sherman, c'est un mystère pour moi, parce qu'effectivement, il aligne tous les poncifs du genre, mais ça marche, quoi. Et effectivement, à la fin, moi, je sors un peu lessivé du film, quoi. La première vision, parce que là, je l'ai vu plusieurs fois, mais la première fois que j'ai vu ce film, je suis sorti abasourdi, moi, de Dead and Buried, hein, vraiment. Hein.
Mais oui, carrément abasourdi, mais je pense que ce qui marche aussi réellement dans ça, et ce pourquoi on trouve ce film qui se démarque des autres films dans ce même genre-là, c'est vraiment qu'il apporte une sorte de désespoir et surtout un côté vraiment un peu malsain, parce que quand il faut y aller dans le pas très correct ou quoi que ce soit, parce que la révélation de la fin, elle est quand même sacrément salée. Et je crois que c'est ça aussi qui marche réellement. C'est vraiment, il se limite pas à dire voilà, je vous fais une histoire comme vous en avez vu déjà dans de nombreux films. Non, il apporte quelque chose d'autre avec ses personnages réellement. Donc voilà, moi c'est, je pense que c'est ça aussi qui m'a marqué, cette sorte de désespoir, de vision assez noire et ce côté un peu malsain.
Écoutez Culture Prohibée spécial Gary Sherman.
Bang, bang, shoot 'em up, talking about crime. Everybody's swimming in the neon slime. The streets are flowing with neon slime. Everybody walking it all. Neon slime, yeah, neon slime.
Si je vous ai parlé hein, des problèmes de production qu'a rencontré Gary Sherman sur Dead and Buried, tout simplement, ça a un sens. Parce qu'en fait, l'un des producteurs, Robert Remeu, a vu le premier montage en fait, de Dead and Buried avant qu'on fasse refaire des scènes à Gary Sherman. Et il l'a beaucoup apprécié. Donc, il va emmener du coup Gary Sherman sur Vice Squad, Descente aux Enfers. Et Gary Sherman va suivre. Et il va signer en 82, moi, ce que je considère comme un des polars urbains les plus marquants des années 80 et 90 avec le travail. Je mets ça quasiment sur le même plan que le travail de Friedkin. Voilà. Je trouve ça. Le temps d'un film, hein, parce que Gary Sherman ne tiendra plus jamais ses promesses, va disparaître, etc. Mais le temps d'un film, je trouve ça exceptionnel. Bon, il faut savoir que le film a tellement marqué d'autres maîtres du polar. Hein, que pour sa véracité, pour sa crudité, pour voilà, que en fait Jonathan Demme et Michael Mann, par exemple, vont devenir potes avec avec Gary Sherman hein, quand ils ont vu Vice Squad, ils ont pris une telle claque, voilà. Et faut le savoir quand même que c'est vrai que c'est un film qui a un côté ultra réaliste. Alors qu'est-ce que ça raconte? L'intrigue, elle est très simple, hein, en fait. Hein. On suit. Là, c'est pareil, hein, on ne lésine pas non plus sur les. Quelque part, comme Thomas disait pour Dead and Blood, on ne lésine pas non plus sur les poncifs, puisqu'on a la prostituée au grand cœur, qui est interprétée par Susan Eublé, qui est échappée aussi du hardcore de Paul Schrader. D'ailleurs, il y a des liens entre les deux films. Hein. On sent qu'il a vu aussi hardcore que Sherman quand il fait gros film aussi hardcore de Schrader quand il fait Vice Squad. Et l'histoire est toute simple. Cette prostituée, elle travaille en solo, hein, elle fait des trucs un peu plus entre guillemets classieux, hein, parce qu'on découvre la sinistre réalité du métier de prostituée. Hein. Il y a une scène de nécrophilie qui est quand même pas piquée des verres, éclairée à la bougie, qui est quand même assez hallucinante. Il y a aussi les joies de la douche dorée que l'on découvre. Hein, voilà, cette émission n'est décidément pas pour les enfants, interdite aux moins de 16 ans. Hein, voilà, et puis, dans cette faune noctambule. Il y a un flic qui est un type à peu près droit, qui travaille aux mœurs, qui patrouille la nuit, qui n'est pas spécialement charismatique, un type lambda, quoi, voilà, qui fait son taf. Et puis il y a un Mac texan, voilà, look texan, interprété par Wings Hauser, qui trouve là son premier grand rôle, qui est tout simplement extraordinaire dans le film. Hein. C'est-à-dire que c'est un type complètement abject, ignoble. Qui tabasse ses filles, qui. Bon, y a aussi un moment, une allusion au fait qu'il a pratiqué une sorte d'avortement sauvage avec un cintre métallique. Enfin, voilà, je ne vous fais pas de dessin, c'est un type fort peu recommandable. Et donc, le flic qui sait que Susan Eublé, donc princesse dans le film, hein, c'est son surnom, a des infos sur lui pour le faire tomber. Il sait que ce type a fait du mal à une fille, il demande à Princesse de le balancer. Le problème, c'est que quand on transporte le mec, c'est tellement un psychopathe, parce qu'en fait, c'est un psychopathe, hein, le type, hein, qu'il arrive à s'évader, à foutre tout en l'air. Et il se retrouve, évidemment, on se retrouve coincé, unité de temps, sur une nuit. Faut que le flic retrouve Princesse avant que le psychopathe la retrouve, elle. Voilà, et ça donne un film, moi, qui m'a profondément marqué. Je me rappelle à la découverte de la VHS. J'avais l'impression de voir presque quelque chose de documentaire, c'est-à-dire en voyant ces images captées la nuit, tout ça. Et en fait, j'ai découvert que je n'étais pas très éloigné de la réalité en préparant cette émission, puisque grâce aux interviews, aux nombreux bonus présents dans l'édition de Make My Day, il n'y a pas tant de bonus que ça, mais il y a surtout le bonus qu'il faut, c'est-à-dire la grosse interview de Gary Sherman pendant quasiment une heure et demie. Et on découvre qu'en fait, c'est un peu ce film qu'il a décidé d'arrêter le cinéma. C'est-à-dire qu'il était totalement épuisé quand il a fait ce film. Bon, il avait enchaîné aussi des films très vite. Hein. Et il a suivi pendant plusieurs mois des patrouilles de police, la nuit, dans le quartier de Los Angeles. Il a vu tout ça. Il s'est inspiré. Tous les faits relatés dans le film, la scène de nécrophilie, ça et tout, sont inspirés d'échanges qu'il a eu avec les prostituées, d'échanges qu'il a eu avec les forces de l'ordre. C'est pour ça que tout paraît si réaliste. Et puis surtout, il filme, en fait, que vous voyez dans le film, c'est pas des acteurs, à part les héros, c'est pas des acteurs, c'est des vrais flics au travail. Donc, d'où le grand réalisme du film. Hein. Et d'ailleurs, il y a certaines scènes du film où, en fait, ils étaient en train de filmer des scènes de fiction avec des vrais flics. Et pendant ce temps-là, il se passait vraiment quelque chose. Et ils voyaient d'autres vrais flics intervenir pour de vrai. C'est ça qu'ils ont gardé dans le film. Voilà. C'est vous dire le côté réaliste. Et on est esthétiquement, moi, je trouve, dans autre chose par rapport à ces autres films. Par contre, on garde cette patte très malsaine. Très malsaine. Très horrifique, presque fantastique, parce que ce psychopathe interprété par Wingshauser, il est presque indestructible. On a l'impression que c'est une sorte de Michael Myers qui serait un Mac. Michael Myers en macro, quoi, voilà, avec une gueule d'ange, hein, bien sûr. Hein, il n'a pas un masque sur la tronche, mais son masque, c'est sa gueule d'ange, justement. Et le type est absolument ignoble, infect, horrible. C'est Hitchcock qui dit que plus le méchant est bon, plus le film sera meilleur. C'est tout à fait le cas, parce que effectivement, comparé aux flics plutôt effacés, on se rappelle surtout de ce psychopathe interprété par Wingshauser, qui connaîtra ensuite une carrière plutôt sympathique, Wingshauser. Hein, voilà. Et moi, c'est un film qui m'a profondément marqué, qui m'a profondément traumatisé. Quand je l'ai revu, je l'ai trouvé toujours aussi puissant, malgré même un côté presque quelques longueurs, hein, parce qu'il y a toujours quelques longueurs dans les films hormis Dead and Buried, peut-être parce que les producteurs ont un peu trop mis la main dessus, mais il y a toujours quelques longueurs dans les films de Sherman, mais ça ne me gêne pas. Je trouve que, comme je suis pris par l'intrigue, l'ambiance, ça ne me gêne pas qu'il y ait des moments où il ne se passe pas grand-chose, en fait. Parce que je suis pris par l'ambiance, par le côté visuel, j'ai l'impression de vraiment vivre quelque chose de quasi-documentaire, de voir quelque chose de quasi-documentaire, et je trouve que c'est un film formidable.
Oui, tout à fait. Et là, encore une fois, Gary Sherman. Alors moi, je n'ai pas été très, très sensible au film. C'est-à-dire que je l'ai bien aimé, mais je ne le porte pas non plus comme ça, si haut que ça. Par contre, force est de reconnaître qu'il excelle, ce mec, dans les contrastes. C'est-à-dire qu'il va mettre une belle gueule du méchant, mais il va en faire de ce méchant un caractère des plus pourris, histoire peut-être de créer vraiment ce contraste. Alors après, c'est vrai qu'il y a ce côté Los Angeles, la nuit, qui apparaît. Il y a cette scène énorme, où elle doit s'habiller en mariée, on ne sait pas trop où elle va, mais c'est excellent. Il y a toujours, c'est vrai que pour moi, c'est marrant, ce que je garderai de ce réalisateur-là, c'est vraiment, il arrive toujours à faire un sacré contraste dans ses films, c'est assez frappant. Après, voilà, bon, c'est violent, certes, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Mais il faudra peut-être que je le revoie, c'est comme tout, hein, les films, c'est comme le bon vin, il faut en goûter pour voir.
Il maîtrise en effet ses alternances dans son ton, ce qu'il avait déjà fait pour Le Métro de la Mort. C'est-à-dire qu'on a les scènes de prostitution qui sont plus des scènes comiques, vu qu'on retrouve constamment Princesse avec un nouveau client qui fait une nouvelle demande. Et on est toujours un peu intrigué par ce que c'est, jusqu'à la scène de la mariée, bien évidemment. Et parallèlement à ça, en fait, on est dans un film qui repose tout de même sur une course-poursuite, c'est-à-dire que Ramrod, le méchant, s'est échappé, tente de se venger de Princesse qui l'a balancé, trahi et laissé à la police, et la police qui essaye de retrouver Princesse pour la protéger et Ramrod pour l'arrêter, qui porte bien son nom, du coup, Ramrod, du coup, Ram, bélier, donc l'idée de quelqu'un qui fonce, et Rod, tige, pour envoyer à l'aspect sexuel du personnage, ce côté pimp. Et comme tu l'as dit, Jérôme, c'est un méchant, mais incroyablement réussi. À chaque fois qu'il débarque dans un plan, on sent la menace immédiate. C'est-à-dire que la première introduction qu'on a de lui, on l'a juste de manière auditive quand l'ami de Princesse l'appelle pour lui dire que Ramrod l'a encore battu. Ensuite, on le voit pas la battre, mais on la voit après qu'il l'ait revu totalement tabassé. Et à chaque fois qu'il réapparaît, il est plus violent. Il a vraiment un truc, comme tu l'as dit, un peu un increvable de film d'horreur, où à chaque fois qu'on le voit débarquer, qu'importe le personnage face à qui il se retrouve, on sait que c'est que le personnage est en danger de mort. Et c'est vraiment incroyable de réussir à faire ça dans ce film.
Je trouve que c'est un film intéressant, notamment dans la description du monde de la nuit à Los Angeles, hein, Hollywood Boulevard, le monde de la prostitution, etc. Notamment, il montre des choses dont on n'a parlé que récemment, notamment quand ce personnage justement a un client handicapé. Hein, maintenant, on n'en parle que depuis seulement quelques années, le fait que les handicapés peuvent avoir droit à des relations sexuelles via la prostitution. Hein. Et donc, il y a ce côté un peu social de la prostitution qui est montré. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans le film, enfin, ce qui me gêne, c'est pas grave non plus, mais je trouve que le scénario est un peu cette course-poursuite avec ce final. Je trouve très américain dans le sens où je trouve ça très conventionnel, quoi. Mais après, c'est surtout un film qui est intéressant par la description qu'il fait de ce monde de la nuit très clinquant, où on voit justement ces jeunes femmes qui sont aussi en danger, mais en danger parce qu'elles s'exposent à des pervers, s'exposent à des clients qui sont pas corrects, comme celui qui lui vole l'argent parce qu'il n'est pas content, en gros, caisse. Je trouve que c'est effectivement très bien décrit de ce côté-là.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret, dit L'Homme Mystère, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.